France Culture.
À voix nue, Alain Lefkovitch, avec cette semaine...
Yamabas.
Bonsoir Yamabas. Alors vous êtes réalisatrice, scénariste, photographe palestinienne, mais cette présentation est sans doute très réductrice, car comme nous allons le voir tout au long de cette semaine, au cours de nos rencontres nocturnes à voix nue, vous êtes bien plus que ça.
Mais
d'abord, vous avez dit un jour que c'était difficile de parler de vous et que tout ce qui vous ramène à votre métier, ce n'est pas quelque chose qui vous met à l'aise. C'est comme si on vous dénudait, mais pas dans un rôle. Alors j'espère que nous arriverons à découvrir qui vous êtes, Yamabas, au cours de nos entretiens de la semaine.
J'espère.
Et pour cette première entretien, donc, nous sommes installés chez vous, dans le 12e arrondissement de Paris, au milieu sans doute d'objets, de livres, qui incarne les multiples vies que vous avez menées et où que vous menez de front. On est bien loin de votre terre natale, située, alors j'ai calculé, à 3200 km en ligne droite d'ici. Je parle de Nazareth, bien sûr, en Galilée. Vous êtes né en novembre 1960, mais c'est dans le village de d'Erchana, situé à 26 km au sud de Saint-Jean-d'Acre, non loin des rives du lac de Tibériade que vous avez vécu, un village conquis par l'armée israélienne en 1948, 6 mois après la naissance de l'État d'Israël, conquête qui s'est soldée par le déplacement de milliers de Palestiniens qui ont été expulsés et qui ont fui vers le Liban. Et lorsque vous naissez, votre famille est toujours soumise à la loi martiale imposée par les nouveaux maîtres du pays, donc loi martiale imposée 12 ans auparavant, située donc dans ce qui était la Palestine avant la naissance de l'État d'Israël. Erchana est peuplée à l'époque de 90% d'Arabes musulmans et de 10% d'Arabes chrétiens. C'est dans ce contexte que vous faites vos premiers pas, Yamabas ?
Absolument. Je suis née dans le pays qui s'appelle Israël, avec des parents héritières de cette Nakba et de cette Palestine d'il y a 12 ans auparavant, et qui ont, en fait, que leur vie s'est chamboulée entre deux lieux, deux appellations, deux manières de politique et sociale d'un vécu qui a beaucoup influencé mon enfance. En fait, j'ai envie juste de dire que quand j'étais jeune, à part le fait qu'on est soit musulman, soit chrétien, la religion n'était pas une identité, n'était vraiment rien que une pratique personnelle de chacun. D'ailleurs, même on voyait pas nécessairement beaucoup de signes qui montrent que quelqu'un est musulman ou quelqu'un est chrétien. Et il y avait la mosquée de mon village et la l'église, ils les sont toujours d'ailleurs, côte à côte. Donc, on allait à l'église, on allait à la mosquée, et on avait l'impression de vraiment prier comme on veut, dans un lieu ou l'autre, sans que ça soit conflictuel. Il y avait une seule identité, c'était l'identité palestinienne, qui rassemblait les deux religions. Et on parlait pas beaucoup. Je me souviens la première fois où ça a vraiment commencé à être très présent, c'est en 82. Donc après juste la guerre de Liban et l'attaque d'Israël à l'intérieur du Liban, parce que c'était la première fois que les Israéliens, ils ont rentré vraiment physiquement à l'intérieur de Liban, et il y a eu aussi le départ des Palestiniens de Liban. Et là, d'un seul coup, on commençait vraiment à entendre beaucoup plus parler de la communauté musulmane, la communauté chrétienne, et presque, en fait, on les mettait toujours en opposé, comme si l'un opposait à l'autre. Et c'est à partir de là où on a commencé à tracer, j'ai envie de dire, dans l'histoire de la Palestine, une sorte de séparation, mais vraiment beaucoup imposée par l'intervention israélienne.
Oui, parce que comme le montre Vincent Lemire, il raconte ces femmes musulmanes qui vont à l'église prier lorsqu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors elles vont à l'église prier la Vierge, déposer un cierge.
Moi, je peux parler de mon expérience personnelle. En fait, moi, j'ai vécu vraiment toute mon enfance. J'étais La fille de prêtre de mon village était ma meilleure copine et j'ai vécu presque tout le temps chez elle comme elle était tout le temps chez moi. Et quand, à chaque fois qu'il y avait une fête chrétienne, j'allais. Même à l'école, il y avait des cours de religion, en fait, qu'on prenait. Et moi, j'étais vraiment fourrée tout le temps dans le cours de religion chrétienne. Parce que ça me plaisait, en fait, ce qu'on racontait des choses que je recevais pas par mon éducation personnelle. J'étais fascinée par cette histoire de Jésus, par ce message christique, par les images que je voyais sur les livres qui me faisaient rêver. J'aimais beaucoup cette découverte aussi. J'aimais beaucoup aussi ce savoir et j'aimais beaucoup cette rituel dans l'église avec la procession, tout ce qui se passe en fait. Et quand on est jeune et qu'on fait le baptême, je trouvais qu'il y avait aussi une beauté à ça qui me parlait beaucoup en tant qu'enfant et qui m'a nourrie spirituellement, j'ai envie de dire. Après, c'est pas pour cela que je suis devenue chrétienne, je ne suis pas. Mais je trouvais que vivre ces deux religions comme ça, ensemble, dans une ambiance villégeoise, dans une patrie spirituelle, j'ai envie de dire, m'a beaucoup nourrie quand j'étais enfant.
La religion, chez vous, on n'en parlait pas ?
Pas beaucoup, en fait. Comme je disais, vraiment, on fêtait les fêtes. Le ramadan était quelque chose de plutôt, chez moi, une sorte de tradition spirituelle pour aussi se souvenir qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Parce que je me souviens, j'avais un devoir d'aller amener à manger tous les soirs à une femme, par exemple, aveugle ou des gens qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très important dans mon éducation, chez ma famille. Et donc, pour moi, le ramadan n'était jamais quelque chose où je me gouffre de bien et de... C'est juste avant que je mange, je pense à l'autre.
C'est une pratique sociale, en fait.
Oui, dans mon enfance. Je peux parler de mon enfance parce que je l'ai vécu. Et c'était plutôt une pratique sociale et une pratique qui rassemblait la communauté, rassemblait les familles, rassemblait les gens pour et riche, rassembler vraiment des gens de toutes sortes de classes. D'ailleurs aussi, je parlais par exemple des jeunes comme moi, mais qui étaient de religion chrétienne, et on se trouvait ensemble pour manger. Donc c'était vraiment plutôt quelque chose de l'ordre de rassemblement, qui allait au-delà peut-être des symboles qu'on donne aujourd'hui au ramadan et aux jeunes de musulmans, surtout dans la tête des gens qui ne sont pas musulmans.
Alors avant de plonger dans les méandres de votre famille à Mabas, je voudrais vous poser une question. Un jour, le journaliste Alain Grèche, spécialiste du Proche-Orient, qui a écrit donc un ouvrage publié il y a quelques années qui s'intitulait « De quoi la Palestine est-elle le nom ?», un livre dans lequel cet ancien directeur adjoint du Monde diplomatique nous livrait une analyse de la situation dans cette région du monde. Un récit qui nous parle de blessures et de mémoires qui s'entrechoquent. Alors, j'ai envie de vous poser la même question. Il y a ma base. De quoi votre Palestine est-elle le nom ?
Qu'est-ce que j'ai envie de dire, en fait ? J'ai l'impression que c'est peut-être la question la plus difficile, en fait, émotionnellement aujourd'hui. À laquelle, effectivement, j'ai du mal à répondre. Parce que la Palestine, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un moteur personnel. C'est pas qu'un nom, c'est pas qu'un pays, c'est pas qu'une patrie, c'est pas... C'est toute une structure identitaire de la personne qui et je suis, et pas seulement. Je crois que aussi structure émotionnelle, psychique, mentale, intellectuelle, avec laquelle je bouge, avec laquelle je voyage, avec laquelle je porte d'ailleurs. Et je porte comme une valise qu'on met sur le dos et on va avec. Des fois on ouvre, on sort des petites choses, des fois on laisse ranger, et des fois on essaye de la lâcher, mais elle nous attrape, en fait, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier sa valise quand on voyage. Donc, c'est... Pardon.
Il y a quoi dans cette valise? Il y a ma basse, parce que...
Il y a tout. Il y a tout. Il y a vraiment, comme je disais, il y a la psyché, il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a l'histoire, il y a l'enfance, il y a la poésie, il y a l'amour, il y a la famille, il y a la relation à l'autre, il y a la réconciliation, il y a tout. Il y a vraiment tout. Après, tout se mélange des fois et on ne voit pas clair. Mais en tout cas, j'essaye toujours d'ouvrir la valise quand j'ai ma tête, quand ma tête est claire. Parce que j'ai pas envie de tomber dans quoi que ce soit de ce qu'on essaye de me taxer toujours. J'ai envie de rester libre en tant que Palestinienne pour ouvrir cette valise, pour accueillir encore plus d'amour. Et plus de pardon, et plus d'un langage du cœur.
Il y a aussi ces broderies qu'on voit autour de vous, il y a ces recettes de cuisine, il y a ces chansons, il y a ces poèmes dont vous parliez. Les Palestiniens sont très friands de poésie. La poésie qui est née après, justement, 1948, elle est porteuse de ce nom, de la Palestine, qu'on récite, qu'on répète à longueur de poèmes. C'est comme une incantation, on transporte ce territoire perdu.
Je crois qu'on transporte quelque chose. Chacun transporte ce qu'il a envie de transporter. Est-ce que c'est le territoire lui-même perdu, ou est-ce que c'est les vestiges de ce territoire? Est-ce que c'est pas la mémoire? Et je trouve que la mémoire est très importante dans ce sens-là, parce que la mémoire trace l'avenir, trace le présent, trace l'avenir des individus. Et je crois que c'est aussi, la mémoire est un lieu de rassemblement, un lieu où on ne peut pas faire la guerre avec la mémoire. La mémoire doit nous montrer, j'ai l'impression, l'avenir d'une paix paisible, en fait, de quelque chose de différent, de vraiment d'une compréhension et d'une acceptation et d'une réconciliation. J'aime pas les gens qui réduisent la mémoire à c'est mon passé et je fais ce que je veux avec, parce que ça m'appartient. La mémoire appartient à tout le monde. Parce que la mémoire s'est passée avec nos aînés, c'est notre héritage à tous, et avec ça on avance tous. Donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la mémoire, ce que c'est, et comment il faut la tracer, aujourd'hui dans notre présent et avenir, je crois que notre avenir il va être très douloureux.
Alors, replongeons dans peut-être des souvenirs plus heureux, celles de votre enfance, dans cette famille, avec votre mère, Nemat, originaire de Tibériade, qui a fui sa ville, exode consécutif à la création de l'État d'Israël. Elle s'est installée donc dans ce village de Derchana. Vous avez été élevé, Yamabas, ainsi que vos 7 sœurs. Vous êtes la cinquième, c'est ça?
C'est ça. 7 sœurs et 2 frères, les pauvres.
Pourquoi?
On les a bien mis sur le bon chemin.
Et alors, il y a un personnage aussi qui est important, c'est votre père. Alors, c'est quoi son histoire, lui?
Alors, mon père, en fait, il est lui-même quelqu'un qui est resté dans le village. Et mon père était la figure, j'ai envie de dire, de l'autorité, de l'héritage traditionnel, en quelque sorte, malgré vraiment son ouverture et, je crois, son fond très libre. C'est un homme que je crois vraiment profondément était un homme très libre intérieurement, mais il était accablé par tout ce qui était tradition autour de lui, et que des fois, il naviguait, aujourd'hui je peux le dire comme ça, quand j'étais jeune, dès qu'il est rentré dans le côté traditionnel, c'était la guerre entre lui et moi. Mais plus tard, j'ai compris et qu'en fait, mon père, s'il n'était pas qui il était, aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que la plus grande bataille, j'ai envie de dire, de la jeune fille femme contre la figure masculine de ma société, était avec mon père au départ.
Patriarcale.
Voilà. J'ai essayé de casser un peu cette rigidité, en fait, masculine chez mon père. J'ai essayé de pénétrer, en fait, à l'intérieur du cœur de mon père. que j'avais l'impression que j'avais pas accès quand j'étais jeune, parce qu'il se baraquait, il se fermait, il était fermé, parce que c'est la figure de l'homme, en fait. Et la figure du père qui devait rester stoïque face à tout ce qui se passe. Et à partir de là, c'était un combat, j'ai envie de dire, avec des hauts et des bas. Mais pour arriver longtemps après à avoir une j'ai envie de dire un discours peut-être plus normal, c'était bien après la naissance de Lina, ma première fille, qui a fait que j'avais un retour à la famille avec une acceptation totale de mon père de ce parcours que je menais, avec un oubli total peut-être de tous les conflits qu'on pouvait avoir au passé.
Alors c'est un père que vous allez finir par défier, mais je reviens un instant sur la question de l'identité, parce que vous dites je suis une femme palestinienne, mais de quelle Palestine parle-t-on? Parce que cette identité elle a plusieurs facettes, avec des réalités palestiniennes qui se sont développées au fil du temps, dans des contextes socioculturels différents. Il y a ceux des camps de réfugiés depuis 67, donc après l'annexion de la Cisjordanie par Israël, donc des camps de réfugiés dans les grandes villes de Palestine. Il y a ceux qui sont dans les camps de Cisjordanie, d'Égypte, du Liban. Il y a ceux qui sont dans les grandes villes, dans les grandes capitales, Beyrouth, Alexandrie, Damas. Et puis il y a ceux qui sont en exil aux États-Unis, au Canada. Vous, votre famille a choisi de rester. Alors vous êtes ce qu'on appelle, peut-être de façon hypocrite, des Arabes israéliens?
Moi, j'ai un peu de mal avec ce nom, en fait, parce que politiquement, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est l'arabe israélien, en fait. Pourquoi il est arabe d'un coup et israélien? Bon, je comprends parce que il y a l'État d'Israël qui s'est installé sur cette terre, et donc ceux qui sont restés à l'intérieur des frontières de cet État, ils sont devenus par passeport, par identité de voyage et israélien, mais à la fois, c'est des Palestiniens. Et j'avais l'impression que toute ma vie, depuis mon enfance, je devais me justifier de ce titre, en fait, de cette appellation. Et je trouve que ça fait partie de cette mémoire dont je parlais, qu'on essaye d'éradiquer, qui n'est pas nécessairement quelque chose constructif pour une acceptation des Palestiniens. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la montée d'extrême droite israélienne et de ce qui se passe au niveau de l'État, c'est des choses qui vraiment renvoient beaucoup à cette discrimination, parce que si on est arabe israélien, donc on doit succomber à la loi et à tout, et on n'a pas le droit de s'exprimer. Et c'est ce que la dernière année de notre histoire commune à montrer. Et aujourd'hui, j'ai du mal à dire que si je veux m'exprimer différemment, si je veux relater mon identité par rapport à comment je me sens et comment je sens cette identité, qu'on me l'interdit, ça veut dire qu'on interdit mon existence quelque part. On interdit ma façon de m'exprimer et on interdit ma façon de rêver cette identité. Donc j'ai aujourd'hui beaucoup de mal avec cette appellation.
C'est-à-dire qu'en 48, l'espace géographique Palestine disparaît puisqu'il devient Israël, et que depuis c'est aussi une guerre de reconquête du nom. Il faut que on se réapproprie ce nom de Palestinien, qui disparaît d'ailleurs dans la déclaration Balfour de 1917, qui prévoit la construction d'un foyer de peuplement juif en Palestine, tout en respectant le droit des populations non juives. Et donc le terme palestinien disparaît à ce moment-là.
Oui, absolument. Et moi, je me souviens, j'ai grandi, malgré le fait que dans mes oreilles et dans mon arrière-tête, la Palestine a été toujours là, parce que ma mère, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle notamment, étaient des femmes qui soufflait à mes oreilles d'enfant notre histoire et leur identité qui commençait vraiment à rentrer à l'intérieur de mon système et de la manière dont je me suis construite. Et à l'époque, je me souviens, vraiment, on n'osait pas prononcer le mot Palestine. Ça n'existe pas. En fait, ça devait pas exister sur l'espace public. Ça devait pas exister dans l'expression. Et j'ai l'impression que longtemps après, et vraiment longtemps après, après les accords d'Oslo, que d'un seul coup, on pouvait dire, oh ben, je suis palestinien né en Israël, ou je suis palestinien, ou je suis d'origine palestinienne. Et on avait un peu une sorte de porte qui s'est ouverte à cette forme d'expression, ou cette forme de relation à l'identité palestinienne. Et effectivement, c'était très compliqué parce que quand on se trouvait des Palestiniens qui venaient en fait d'Israël vers la Cisjordanie et Gaza, moi personnellement, je voyais pas la différence entre mon identité palestinienne et l'identité de ces gens-là. Quand je voyageais et que je rencontrais des réfugiés palestiniens, que ce soit à l'exil en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, et dans les pays arabes, pareil en fait. C'est juste le hasard a fait que moi, avec ma famille, on est resté dans ce village, à l'intérieur de la nouvelle trace de la frontière de l'État d'Israël, et les gens qui restaient à l'extérieur de cette frontière. Mais à la fois, on peut pas m'effacer mon identité en me disant que moi, je ne suis pas comme eux, et que eux, c'est eux les Palestiniens, et moi, je deviens quelque chose autre, parce qu'on a choisi pour moi qui je dois être.
Alors, on va beaucoup parler de Bye Bye Tibériade, hein, ce film réalisé par votre fille Lina Swalem en 2023, puisque finalement c'est un peu une espèce d'exploration chirurgicale, j'allais dire, de votre famille. Un film sur la transmission, elle vous filme, Yam Abbas, alors que vous revenez à Deir Hana, donc le village de votre enfance, après des années d'éloignement. Le film devient une sorte de traversée intime à travers quatre générations de femmes palestiniennes. Lina, donc, votre fille, vous, Yam Abbas, votre mère, Nemat, et votre grand-mère. Alors, c'est un film intéressant parce qu'elle interroge justement les silences, les douleurs enfouies, mais elle montre aussi la force de toutes ces femmes qui, malgré l'exil, ont su rester vivantes, ont su faire vivre leur culture, leur mémoire.
Oui, oui. J'ai l'impression que j'ai tellement parlé de ce film. Parce que effectivement, ça fait presque un an et demi que le film est sorti et qu'on l'a un peu accompagné partout. Mais effectivement, c'est un film qui pour moi n'était pas simple au départ, parce que comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, je préfère parler vraiment de mon travail et les films et les rôles que je fais que parler de ma personne. Or, à certains moments, avec Lina, dans la préparation de ce film, j'ai senti que c'était plutôt un devoir, en fait. Parce que comme Lina traçait l'histoire de ces femmes dans d'un parcours individuel vers le parcours universel ou le parcours collectif de ces quatre générations, je faisais partie de puzzle. Et donc, je ne pouvais pas me retirer de ce devoir pour accomplir en fait le cercle de ce parcours féminin qui devait raconter vraiment un récit que Lina désirait dire de sa manière de voir l'héritage et la transmission féminine à travers ces quatre générations. Et bah voilà, je suis aussi la personne qui lie Lina à ce passé par la force d'être sa mère. Donc ça a fait que je devais y participer.
Alors je le disais, c'est un film sur la transmission. On transmet une mémoire, des gestes, des récits intimes. Et ce qui est intéressant, c'est que on arrive à parler d'une Palestine sans passer par la sempiternelle guerre israélo-arabe. La guerre n'existe pas, même si l'occupation et cette guerre est en toile de fond, mais c'est une toile de fond très lointaine finalement. Comment on fait pour parler de la Palestine sans parler de la guerre ?
Ben, je crois que l'idée était de parler vraiment des parcours personnels et les tracer dans la mémoire collective. Et je crois que à partir de là, l'intérêt était porté vraiment sur ces parcours personnels. Mais aujourd'hui, je crois que même le parcours personnel d'un Palestinien ou une Palestinienne ne se sépare pas de l'histoire, ne se sépare pas de l'histoire avec un grand H et de la mémoire collective de peuple palestinien. Nous y sommes. On en fait partie. Et donc, et c'est pour ça aussi, je voulais vraiment y participer parce que je trouvais que le film n'était pas manichéen. La manière dont Lina voulait vraiment tracer sa pensée cinématographique de ce qu'elle voulait, elle voulait raconter, c'était justement redonner aussi à ces femmes privées de leur passé et de leur mémoire un lieu d'exister dans leur mémoire cinématographique à travers ce film. Elle les a injectées de nouveau dans leur propre mémoire, dans la mémoire qui appartenait à tout le monde. Donc je ne sais pas si on parlait pas encore du conflit en lui-même, si on n'allait pas enlever un côté poétique, un côté cinématographique, un côté quand même effectivement influent pour pouvoir s'attacher à ces gens. C'est comme si on souligne tout le temps l'histoire de la Palestine avec ce conflit. C'est comme si on est obligé à chaque fois qu'on parle de la Palestine de parler de ce conflit. On a le droit de rêver autrement, sur ce fond, toujours, parce que le conflit n'a pas arrêté. Et le conflit, elle est ce qui nourrit aussi nos visions artistiques aujourd'hui. Parce que quand on parle, en fait, à mon sens, de ces histoires personnelles et de ces parcours personnels, on parle de l'histoire en général, on parle de conflit, même s'il n'est pas directement manifesté.
Alors, comment s'opère la transmission de cette histoire dans la famille Abbas? Votre père, qui est absent du film, et ça, on en reparlera, a joué un rôle central à la fois dans l'éducation de votre sororité et dans votre formation à vous. Son décès vous a profondément affecté, Yam Abbas, mais ça, c'est une autre histoire que vous allez nous raconter demain soir, lors de notre second entretien de la semaine, toujours à voix nue. Bonsoir et merci Yam Abbas, merci à toutes et tous et bonne soirée à l'écoute des programmes de France Culture.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, Alain Lefkovitch avec Yam Abbas, chargé de programme Daphné Abgral, à la prise de son Thomas Robin, à la réalisation Guillaume Baldi, une série que vous pouvez bien évidemment réécouter sur le site et l'application Radio France.